Et pour ce message, donc, j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait dire. Et la question, c'était vraiment, qu'est-ce que tu veux dire à l'Église, pas simplement qu'est-ce que tu veux me dire à moi. Et en fait, depuis le début du culte, je vois, il y a vraiment une présence de Dieu qui est assez forte, lourde. Je pense que vous l'avez senti aussi. Et j'ai comme cette impression qu'il veut renouveler nos pensées. Et en fait, le point de départ pour moi, c'était j'ai simplement entendu le début d'un verset. C'était il tient en réserve des ressources. Alors Dieu tient en réserve des ressources, rien que ça déjà c'est super encourageant. Et je me suis dit bon ok, c'est parti pour la chasse au trésor, c'est le premier indice. Et donc je suis allée, merci Google, je suis allée voir où ça se trouvait, parce que je suis pas comme mon mari, je suis pas une concordance sur pied. Donc je lui ai pas demandé, mais je suis allée demander à Google, et c'est dans Proverbe 2. Donc on peut le prendre pour ceux qui ont leur Bible. Proverbe 2, chapitre 2, verset 7, il tient en réserve des ressources pour les gens droits. Et il y a plusieurs versions de ce verset, et celui-là me plaît bien. J'avais vraiment le mot ressource dans la tête, mais en fait ce mot ressource, il peut être traduit de plusieurs manières, et ça m'a un petit peu interpellée, donc je vais vous raconter un peu mon parcours. Et donc j'ai lu le chapitre 2 en entier. On va le lire jusqu'au verset 12 déjà. Alors, mon fils, donc là c'est dans la version Louis II, hein. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Donc verset 7, ici c'est le salut. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. En protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie de ses fidèles, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, etc., etc. Ça continue avec les autres pièges, mais on en parlera tout à l'heure. C'est un beau proverbe, un beau chapitre de proverbe. Et j'ai pris mes petits crayons de couleur et j'ai commencé à colorier tout ce qui concernait l'intelligence, la sagesse, le fait de réserver, donc de chercher la sagesse de Dieu et la compréhension des choses. Et puis après, il y avait un deuxième thème qui est arrivé et qui m'a un peu étonnée. C'était évidemment tout ce qui correspondait à la sécurité, à la protection. Et au début, je me suis dit, ah ben mince, comment ça se fait que la sagesse peut amener une protection ? Alors, sauf bien sûr si on prie avant de faire une bêtise. Là, on a besoin évidemment de la sagesse du Seigneur pour pas faire la bêtise, mais on va pas pouvoir prier à chaque fois qu'on va faire quelque chose. Donc, je me suis dit, bon, ça m'a intriguée. Je suis partie, j'ai continué mon petit chemin de chasse au trésor. Et je me suis demandé, bon, ma Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à cette protection ? Qu'est-ce que tu veux, dans ce contexte en plus particulier de guerre et d'attentat, qu'est-ce que tu as à dire sur la sécurité ? J'étais vraiment très intéressée, comme vous pouvez l'imaginer. Je sais pas vous, mais parfois, justement, quand il y a des choses graves comme ça qui arrivent, que le contexte actuel est lourd, moi, parfois, ça me fait monter des bouffées de crise existentielle finalement, je vais voir le Seigneur, je lui dis, mais est-ce que tu me protèges, quoi? Est-ce que tu protèges mes enfants? Est-ce que t'es là? Est-ce que je peux compter sur toi? Parce que, comment ça se fait qu'il y en a, voilà, qui sont à qui il arrive des choses atroces, et comment ça se fait que moi je suis bien tranquille dans ma maison? Donc il y a toutes ces questions qui sont là. Je pense que pour certains de vous aussi. Et donc je fais le point avec le Seigneur et je prie, je lui pose des questions, je médite. Et c'est presque existentiel. Et je cherche ma sécurité en lui, surtout quand voilà mes émotions sont tellement ébranlées. Et ça m'a du coup fait beaucoup de bien de lire ce chapitre. J'ai médité sur ce chapitre, ça m'a rappelé qu'il est notre protection, qu'il est notre ferme appui. Mais je crois que c'est aussi un appel pour l'Église avec un grand E, son épouse, hein, Dieu a donné son épouse à Jésus, et il la protège, il en prend soin. Et cette sécurité, on ne peut l'avoir qu'en lui, qu'en Dieu. Et personnellement, j'ai pas tout de suite vu le lien entre la sagesse, la recherche de la sagesse, et puis la sécurité. Donc j'ai continué ma chasse au trésor. Et on va prendre un petit peu de temps donc pour méditer sur ce verset 7, en trois parties. Donc il tient en réserve des ressources pour les gens droits. Donc la première partie de ce verset 7 est assez sympathique. C'est Dieu qui tient des ressources pour nous en réserve. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des réserves? Qu'est-ce que Dieu a comme réserve pour nous? C'est assez intriguant. On sait qu'il a tous les trésors de la sagesse pour nous. Et quand j'ai lu justement l'autre version, il y a deux autres versions hein, de ce verset, où justement le mot ressource est traduit soit par salut, comme on vient de le lire, soit par succès. Dieu tient le succès en réserve pour les hommes droits, pour les gens droits. Et ça m'a intriguée, donc j'ai fait des petites recherches de Strong dans les concordances. Et j'ai vu qu'en fait le mot qui est traduit par ressources, par sagesse et par salut pardon et par succès, en fait c'est un mot qui est utilisé que 12 fois dans l'Ancien Testament, et il signifie en fait 10 fois sur 12 sagesse. Donc c'est assez intriguant. Pourquoi ils l'ont traduit par succès dans la version seconde? Dans la version Darby, c'est saint conseil, saint de saine, d'accord, des conseils, de bons conseils, on va dire. Et j'ai cherché donc la signification du mot en hébreu, et il signifie succès comme effet de la sagesse. Voilà. Salut, immense sagesse. Parfois, une fois, c'est traduit par immense sagesse, solide connaissance. Et c'est pas le même mot que le mot salut qui veut dire délivrance, hein. Ça vient d'un autre radical. Et donc, quand on traduit par sagesse particulière, évidemment, du coup, c'est plus un verset qui tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans ce chapitre. Il est vraiment relié à la recherche de la sagesse dont on parle dans les 6 premiers versets. Donc, on peut traduire, il tient en réserve une sagesse particulière pour les gens droits. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ce mot, donc, c'est Tushiya, je ne le prononce pas très bien, mais Tushiya, ce n'est pas Chorma, qui est le mot sagesse hein, qu'on connaît tous, et qui est donc cité 39 fois dans les Proverbes, hein, notamment dans Proverbe 1, dans tous les chapitres des Proverbes quasiment, et 139 fois dans toute la Bible. Donc ce n'est pas le même mot. C'est pas le mot que l'on voit par exemple dans Proverbe 1, verset 23, où le Seigneur nous promet qu'il enverra son esprit de sagesse. Hein. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles, et c'est la sagesse qui parle là. Donc mais c'est pas ce mot-là. Donc c'est encore autre chose. Il y a encore en fait une autre signification. Donc on continue notre petite chasse au trésor. Et ce mot, donc, il ne revient que 12 fois. Il n'est pas aussi fréquent que le mot sagesse, Rochma. Donc il s'agit d'une autre forme de sagesse que Dieu réserve à ceux qui le suivent, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Dans la suite du proverbe, dans la suite du verset, donc un bouclier pour ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Et le mot, donc, le verbe tenir en réserve ou réserver, c'est le mot tsafan, et ça veut dire cacher, protéger, mettre en réserve. Et si on le prend, on peut le prendre en tant que verbe ou en tant que nom, et en tant que nom, ça veut dire trésor. C'est beau aussi. Donc c'est Dieu qui met en trésor, dans son trésor, des réserves de sagesse. C'est magnifique. Donc si on déplie ce verset, on peut le reformuler de cette manière-là. Dieu garde en réserve pour ses enfants, ceux qui suivent ses commandements, hein, une immense sagesse qui conduit à un succès durable. Magnifique. Est-ce que vous aviez déjà dans votre cave ou dans votre stock des réserves que vous aviez oubliées? Vous avez racheté, par exemple, bon, moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, on a racheté du ketchup alors qu'on avait déjà deux bouteilles. Et pourquoi? Pourquoi on oublie? Parce qu'ils sont dans la cave, on ne les voit pas, ils ne sont pas devant nos yeux, donc on ne sait plus qu'ils sont là. Et donc on rachète quelque chose qu'on a déjà. Ben, c'est pareil aussi pour les réserves surnaturelles. Ça peut nous arriver aussi. On a des réserves célestes, spirituelles, et puis on oublie qu'elles sont là. On oublie d'aller les chercher. Et Dieu aime cacher les choses. Hein. Vous connaissez le proverbe 25, verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc on a un Dieu qui aime faire les chasses au trésor. Il aime la chasse aux œufs à Pâques. Et pourquoi les enfants ont envie d'aller chercher? C'est parce qu'ils savent qu'ils vont trouver quelque chose. Et pourquoi les parents aiment cacher? C'est parce qu'ils aiment que les enfants trouvent, d'accord? Donc c'est un petit peu ça aussi avec notre Seigneur. Et donc il y a cette promesse que celui qui cherche trouve. Ça c'est dans Matthieu 7:7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe, c'est le verset 8. La sagesse est donc à trouver en lui et non pas en dehors de lui dans notre propre raisonnement. Et donc vous avez tous ces appels de la sagesse, hein, dans le début des proverbes, proverbe 1, proverbe 2, à rechercher, une insistance sur le fait de rechercher cette sagesse, hein, jusqu'au chapitre 9 des proverbes, c'est que ça. Cherche la sagesse, obéis à mes commandements, n'oublie pas, rappelle-toi, écris-le pour que cette sagesse rentre dans ton cœur. Et donc, comme je le citais tout à l'heure, dans Colossiens 2, 3, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et donc, deuxième partie, qu'est-ce que c'est que ces ressources? Donc, si on dit que les ressources que le Seigneur a pour nous, c'est une sagesse particulière qui nous conduit à un succès durable, que Dieu tient cette sagesse en réserve pour ses enfants, il faut aller là. Chercher, il fallait la demander. Et c'est un petit rappel aujourd'hui qu'elle est à notre disposition, mais qu'on doit aller la chercher en fait. On doit descendre dans la cave ou aller dans la buanderie, peu importe. Mais voilà, on ne peut pas rester passif. On doit aller chercher cette sagesse, se mettre en marche, faire des recherches, demander à Dieu de nous éclairer sur telle et telle question. Pour comprendre dans le monde dans lequel on vit actuellement, c'est un peu difficile. Hein, je ne sais pas si vous écoutez les infos. Il y a, bon, évidemment, il faut bien diversifier ses sources pour que on soit pas trop, pour qu'on puisse aller chercher en fait un peu d'objectivité, même si c'est compliqué actuellement. Donc, comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Même quand on a de bonnes sources, il faut toujours tout remettre en perspective. On peut facilement être trompé. Je me rappelle d'une info que Le Monde avait publiée. Le journal Le Monde avait publié. Ils se sont excusés après parce que c'était une info incorrecte. Donc ça montre que même des journaux fiables, hein, qui cherchent à faire un tri des sources, etc., bah, ils sont aussi parfois trompés. Et ils tombent dans les pièges. Et il y a tellement de voix différentes, discordantes, et qui vont dans tous les sens, qu'on a du mal à discerner, à faire le tri. Donc comment faire le tri? Et ce chapitre, justement, nous aide. Et ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus interpellée dans cette recherche, c'est quand j'ai trouvé cette simple vérité, c'est que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et en fait, si on cherche le royaume, bah Dieu il nous donne aussi la compréhension des choses. Ça paraît simple comme ça, mais je ne l'avais jamais appliqué à ce sujet-là en particulier. parce qu'on cherche le royaume dès qu'on vient à l'église, dès qu'on sert le Seigneur, quand on dans son travail, nous c'est l'éducation, mais voilà, on cherche le royaume de Dieu partout dans le monde, puisqu'on sait que tout appartient à Dieu. Mais même dans le principe de la compréhension du monde, la compréhension de ce qui se passe, si on cherche le royaume, Dieu nous donnera la compréhension et répondra à nos questions. Et dans Proverbe 15, vous avez une confirmation que c'est bien la crainte de l'Éternel qui enseigne la sagesse. Proverbe 15, verset 33, c'est parce qu'on s'occupe de ce que... quand on craint l'Éternel, c'est-à-dire qu'on le révère, c'est-à-dire qu'on a une crainte respectueuse, c'est pas qu'on ait peur de lui, mais que, voilà, on cherche à lui plaire. Si on cherche à plaire à Dieu, si on cherche son royaume, il nous enseigne la sagesse. Et bien sûr, vous savez, vous connaissez la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, hein, c'est se détourner du mal, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et ça, c'est dans Job 28:28. Et souvent, on se croit sage à nos propres yeux. Proverbe 3:7, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et moi, j'ai grandi vraiment dans une culture humaniste. Hein, j'étais pas à l'école chrétienne, et je me croyais vraiment sage à mes propres yeux pendant très longtemps, jusqu'à ce que le Seigneur me montre les choses. Hein, j'étais d'une manière aveuglée parce que je croyais comprendre, je croyais connaître. Et aujourd'hui, je veux pas faire de politique, mais on voit bien, hein, toute la vision du monde humaniste ne comprend pas ce qui se passe à Gaza actuellement, ne comprend pas les enjeux du conflit au Moyen-Orient. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui dépasse la simple compréhension humaine. Et j'ai eu beaucoup de mal, hein, pendant longtemps, à comprendre tout ça, jusqu'à ce que le Seigneur me montre quelles étaient les implications spirituelles, en fait. Et c'est en début d'année, là, on a travaillé avec les élèves sur la Genèse. On a chaque matin une demi-heure de temps spirituel avec les élèves. Et c'était sur Genèse, du début, on est arrivé, je crois, jusqu'à presque au bout de Genèse, avec Abraham, l'histoire d'Abraham. Et puis je leur disais, vous voyez ce qui se passe. Alors, c'était pas encore la guerre, mais je leur disais, vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien. C'est aussi ça trouve aussi sa source dans l'erreur d'Abraham, quoi. Alors, il n'y a pas que ça, évidemment, hein, comme l'a dit Marie-Christine la semaine dernière, c'est aussi un plan de l'ennemi. C'est surtout un plan de l'ennemi de vouloir détruire Israël, mais c'est pas juste la chair et le sang. Mais si on comprend qu'il y a une histoire du peuple de Dieu qui est profondément ancrée dans tout ce qu'on comprend là actuellement, il y a une histoire, il y a un point de départ, il y a une chronologie, je pourrais dire, il y a des développements, et puis il y a la patte de l'ennemi, mais il y a la patte humaine aussi. Il y a tout un mélange, donc c'est très complexe comme sujet. Mais si on ne va pas demander la sagesse de Dieu pour comprendre en particulier ce qui se passe, humainement, c'est pas possible, c'est trop compliqué, on s'en sort pas, quoi. Et bien sûr, il y a les émotions, puisqu'il y a des victimes des deux côtés. Donc concrètement, avec notre propre compréhension et intelligence des choses, on n'y arrive pas. Et donc, on ne peut que demander la sagesse de Dieu. On ne peut que comprendre notre monde si on demande la sagesse de Dieu. Et c'est ce que ce chapitre nous encourage à faire. Hein. Donc le premier mouvement du texte, c'est que ça. Hein. C'est donc du verset 1 au verset 6, même jusqu'au verset 8. C'est si tu rends ton oreille attentive, si tu inclines ton cœur, si tu appelles la sagesse. Donc il y a vraiment des verbes d'action, hein. Il y a des verbes qui nous demandent de nous mettre en action, de faire des choses, d'élever sa voix vers l'intelligence, de chercher comme l'argent, poursuivre, alors tu comprendras. Donc il y a plusieurs verbes, hein. Je ne vais pas vous faire une étude linguistique de prof de français, mais voilà, clairement, hein, si vous regardez bien le texte, il y a plusieurs verbes, et jusqu'au verset 6, vous avez le but, l'objectif, car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc c'est l'Éternel qui donne la sagesse. Et on sait, Jacques nous le redit, chapitre 1, verset 5 à 6, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Mais il faut qu'il la demande avec foi, sans douter. » Et donc, Dieu donne sans faire de reproches. Hein. Il sait très bien qu'on peut être confus, qu'on peut... être complètement perdu dans tout ce qu'on entend et dans tout ce qu'on voit. Mais si on sait que ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par soi-même, je pense que cette attitude d'humilité, elle appelle aussi la réponse de Dieu. Hein. Il y a comme cette attitude humble qui rejette l'orgueil de croire tout savoir, de croire qu'on comprend tout. Et du coup, ça appelle aussi... les révélations du Seigneur. Donc il donne ce trésor, il le réserve à ses enfants, et c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir par soi-même, ça c'est vraiment le piège, croire qu'on peut devenir sage par ses propres forces. Et c'est Luc hein, qui l'enseigne, hein, Luc Bussière, Saint Luc, que c'est à partir de ce que Dieu donne, à partir de ses révélations, qu'on peut faire fonctionner son cerveau. Parce que Dieu, bien sûr, nous a donné un cerveau, et il veut qu'on le fasse fonctionner, il veut pas qu'il soit au chômage, hein, mais... c'est à partir des révélations qu'on reçoit du Seigneur qu'on peut commencer à réfléchir et à mettre les choses en lien et à faire le lien, parce que intellego, l'intelligence, hein, c'est ça, c'est faire des liens et donc comprendre. D'un point de vue étymologique, c'est assez intéressant. Et il y a des choses, en fait, qu'on ne pourra pas comprendre si Dieu ne les révèle pas. On peut essayer, mais... Par exemple, la suite du verset 9... Tu comprendras alors. Et au verset 9, vous avez donc trois grands mots, la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. C'est quand même une belle promesse. Et il y a le verbe comprendre. Donc on comprend par son intelligence, on comprend par son cœur aussi parfois. Et on verra justement, c'est surtout une attitude de cœur. Mais la justice de Dieu, c'est pas la nôtre, hein. C'est loin. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Hein. La justice de Dieu, parfois même, elle s'oppose à ce qu'on pourrait imaginer comme étant la justice humaine. Hein. L'équité, c'est pareil. Qui est-ce qui peut comprendre ce que c'est l'équité si ce n'est Dieu ? C'est Dieu qui sait ce qui est équitable pour l'un en fonction de sa situation par rapport à un autre. Nous, on cherche l'égalité, surtout. Hein. Et la droiture, là aussi... Si on veut la vraie droiture devant Dieu, c'est celle du cœur, c'est pas une droiture extérieure, c'est pas un certain légalisme qui pourrait être, entre guillemets, facile à faire. La vraie droiture, celle du cœur, elle est difficile à comprendre, elle est difficile à mettre en pratique. Et au verset 12, on a une promesse, c'est pour te délivrer de la voie du mal. De l'homme qui tient des discours pervers. Et puis à la suite, vous avez aussi verset 16, pour te délivrer de la femme étrangère. Alors là, c'est très concret hein, dans ce verset, mais on pourrait aussi très bien prendre ça comme des symboles. Mais ce qu'il y a, ce sont des discours. On voit bien ici que les pièges qui attendent qu'on puisse tomber dedans, ce sont des discours. Alors c'est verset 12, les hommes qui tiennent des discours pervers, et le verset 16, pour te délivrer de la femme étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Donc il y a cette séduction. Et c'est le même principe pour les deux, c'est que ce sont deux pièges qui passent par la parole pour tromper et pour amener cette confusion. Et donc le but, c'est être délivré de cette voie du mal. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un renversement des valeurs, pardon, j'y arriverai. On appelle le bien mal, hein, et dans Ésaïe, on nous dit « Un malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur, la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, tiens donc, et qui se croient intelligents. » C'est dans Ésaïe 5, versets 20 à 21. Donc c'est intéressant que tout ça tourne autour du même sujet. et qu'on peut, grâce à la sagesse qui nous vient de Dieu, éviter de tomber dans ce piège-là en particulier, de se croire sage à nos propres yeux. On arrive à la troisième partie du verset, c'est les gens droits. Donc comme je l'ai dit, j'ai déjà dit, c'est pas une attitude extérieure, la droiture, c'est une attitude de cœur. Et il ne faut pas la confondre avec le légalisme ou une certaine religiosité extérieure. On sait très bien ce que Jésus a dit sur les pharisiens. Il n'était pas tendre, mais parce qu'il voyait bien que leur cœur n'était pas droit, qu'ils voulaient faire semblant d'être religieux, d'être droit, mais c'était de l'hypocrisie. Et je pense que ça, c'est le pire pour Dieu, c'est de montrer qu'on... on est religieux et qu'au fond du cœur, on ne l'est pas dans le bon sens, bien sûr, on n'est pas du tout relié à Dieu. Un religieux, dans le sens étymologique, c'est être relié. Hein. Donc ça, c'est dans le bon sens. Mais justement, là, au niveau des pharisiens, c'est qu'ils avaient tous les signes extérieurs de la piété, mais rien à l'intérieur. Et donc cette importance du cœur, alors on rappelle, le cœur dans la Bible, c'est pas simplement les émotions, c'est pas simplement l'affection qu'on peut avoir pour l'autre, c'est aussi le centre de la pensée. Hein, vous avez plusieurs versets comme ça, je les ai pas notés cette fois-ci, mais voilà, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que là c'est deviennent les sources de la vie. Donc, mais c'est aussi le siège de la volonté. Le cœur, c'est le centre de l'être. Au niveau de la Bible, hein. C'est pas simplement un truc émotionnel, etc. Hein. C'est vraiment le centre de l'être. Et donc, cette droiture, ça doit être le centre de notre être. Et bien sûr, il y a que Dieu qui peut construire ça en nous. C'est pas quelque chose qu'on peut produire par nous-mêmes. Ou alors, c'est quelque chose qui ressemble à la droiture, mais qui n'en est pas. Et donc on a besoin de cette relation avec Dieu pour qu'il puisse construire ça en nous. Et c'est une affaire de confiance, d'obéissance. Et l'obéissance, évidemment, ça coûte. Vous pouvez dire ça à vos enfants. Oui, je sais, c'est difficile de m'obéir, c'est normal. N'est-ce pas? Voilà, ça coûte. C'est pas agréable. Mais en fait, ça produit un bon fruit, évidemment. Et même dans ces temps troublés, on peut rechercher cette sagesse. Alors que plein de voix tournent autour de nous et nous amènent une certaine confusion, on peut chercher cette paix dans la sagesse de Dieu, cette paix qui dépasse toute compréhension, toute intelligence. Et c'est donc cette attitude de chercher Dieu qui procure la sécurité. C'est ça en fait le point vers lequel le Seigneur voulait m'amener, je pense. C'est parce qu'on a cette attitude d'humilité, de chercher Dieu, de lui poser des questions, et moi je lui en pose un million par jour, mais c'est vraiment ça, c'est cette attitude d'humilité, de chercher la sagesse de Dieu, de chercher sa pensée en fait sur le monde, sur ce qui nous entoure, c'est ça qui nous procure la sécurité. Pourquoi ? Parce que en étant attentif à sa voix, on va gagner en sagesse, évidemment. Hein, il y a un proverbe qui dit « fréquente les sages et tu deviendras sage », mais là, on fréquente le sage par excellence, quoi. Donc, passer du temps avec le sage par excellence, ben, on devient de plus en plus sage. Et donc, c'est là, c'est grâce à cette relation, c'est pas juste un truc intellectuel, c'est pas quelque chose qu'on peut produire par notre cerveau, nos neurones, d'accord ? C'est vraiment la relation avec Dieu, le fait d'être dans sa présence, qui fait qu'on va devenir, en fait, nous aussi plus sages, et nous permettre de discerner mieux, hein, de toujours mieux discerner les temps dans lesquels on est, et puis d'éviter les pièges de l'ennemi. Et pour finir, je voulais aussi parler des ministères qui sont autour de nous, dont on a la chance d'entendre aussi les messages par vidéo. Donc, par exemple, on a eu plusieurs fois donc des messages d'Asher Intrater ou par exemple de Rick Ridings qui cherche hein, vraiment cette sagesse de Dieu, qui cherche ces révélations dans un temps vraiment troublé. Ils sont sur place en plus, hein, donc c'est des ministères extraordinaires. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Asher Intrater, il fait partie du ministère Tikkun. Et il a fait un message, d'ailleurs, que Marie-Christine a traduit, merci Marie-Christine, en français, sur Tsiklag, comment le passage donc de David, alors je sais plus le chapitre, mais comment il est passé par ce moment. Un Samuel 30. Donc il a repris ce passage-là où David passait par un moment effroyable, et il en a fait un encouragement extraordinaire pour ce temps dans lequel on vit actuellement. Et puis Rick Rildings, alors le dernier que j'ai écouté, il nous encourageait à prier. Donc il est à la maison de prière de Sukkot Hallel à Jérusalem. On avait visité l'année dernière avec mon mari. C'est une belle vue sur le mont du Temple. Et en fait, il nous encourageait à prier pour que ce qui se passe actuellement, ce soit pas juste un moment de taille, hein, ou d'émondage, un petit peu comme ça, où on peut émonder pour qu'ensuite l'arbre reprenne encore plus de force. Non, au contraire, mais que vraiment les racines soient arrachées complètement, et que en fait, voilà, le mal soit complètement arraché de Gaza, quoi. Donc on peut que être d'accord avec ça. Et je pense vraiment que, voilà, ce sont deux hommes, ils peuvent être bien sûr faillibles et ils peuvent se tromper, mais bon, dans ce que j'ai entendu récemment, ça m'a vraiment beaucoup encouragée, et je pense qu'ils reçoivent ces choses-là du Seigneur, ça ne peut pas être possible autrement. Alors pour conclure, on peut voir les versets 20 à 22, et là aussi il y a de belles promesses. Le but, c'est de marcher dans la voie des gens de bien, de garder les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Et dans le contexte actuel, vraiment cette promesse, elle résonne fort, en particulier en ce moment. Donc marcher, persévérer pour habiter le pays, pour y rester, alors que les méchants, eux, en seront exclus, arrachés. Et je veux vraiment prier ça aujourd'hui, bien sûr pour Israël, mais c'est aussi pour nous personnellement, hein, qu'on puisse le vivre d'abord dans notre propre vie, que Dieu puisse nous aider à être sages, à ne pas nous croire sages à nos propres yeux, mais vraiment à rechercher les trésors de sa sagesse. Et donc je vais prendre un temps juste de prière, et si vous avez envie, on pourra peut-être prendre un petit temps de louange encore. Mais juste une petite mise en pratique, et de demander à Dieu, est-ce que tu veux me dire quelque chose? Est-ce que tu veux me donner une partie de ta sagesse aujourd'hui sur un sujet particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose que, voilà, vous voulez remettre au Seigneur, que vous n'arrivez pas à comprendre, et que simplement vous venez humblement chercher sa sagesse à lui? Et moi, j'ai eu pendant le temps de louange quelque chose que j'ai vécu là. Je m'y attendais pas. J'ai mis en pratique moi-même ce que je prêche. C'est que j'ai toujours entendu « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Et j'avais reçu ça comme une parole pour moi, personnellement. Et je demandais toujours au Seigneur, mais comment c'est possible? Comment c'est possible tous les jours? Alors la grâce, d'accord, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné, mais j'avais cette idée du bonheur, que voilà, tous les jours être heureux. Je pense que, voilà, tout simplement, aujourd'hui le Seigneur a redéfini le mot bonheur pour moi, et en fait le bonheur, bah, c'est de le connaître. Et c'est la révélation qu'il m'a donnée aujourd'hui, c'est tout bête. Mais du coup, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Ben, le connaître, oui, tous les jours. Et la grâce, c'est la sienne, tous les jours. Donc c'est possible. Donc j'ai eu la réponse à la question que j'avais depuis des années. Oui, le bonheur et la grâce peuvent accompagner les enfants de Dieu tous les jours. Parce que c'est Dieu, en fait, qui le donne. Donc je veux prier ça pour vous aussi, que vous puissiez recevoir aujourd'hui cette sagesse de Dieu. Que Seigneur, tu nous aides vraiment à ne pas nous croire sages à nos propres yeux, malgré l'expérience, malgré les années de cheminement avec toi. On te les donne ce matin, Seigneur, et c'est vrai, même si on pense connaître quelque chose, même si on pense avoir compris quelque chose, tes pensées ne sont pas nos pensées, tu es bien au-delà de ce qu'on peut même imaginer. Et on veut simplement s'humilier devant toi et te laisser nous retransformer toujours par les révélations que tu veux nous donner, parce que tu les as en réserve pour ton peuple, pour tes enfants, pour les enfants qui sont là, qui te suivent. Et nous nous positionnons ce matin en tant que fils et filles qui avons accès à ces réserves. Tu nous les donnes généreusement sans nous condamner. Et tu veux simplement que l'on vienne avec nos questions. Il n'y a pas de questions bêtes pour le Seigneur. Mais vraiment que, voilà, je te prie Seigneur que tu puisses nous renouveler encore dans cette compréhension de qui tu es, de ce que tu veux pour le monde et que tu nous permettes d'écouter ta voix et que tu nous permettes aussi de faire taire toutes les autres voix qui nous tendent des pièges. Parce que la sagesse, elle ne peut être trouvée qu'en toi, elle n'est pas de ce monde. Alors aide-nous à accueillir tes révélations comme des cadeaux qui viennent de ton royaume. Dans le nom de Jésus. Amen.